théophanie, dharmakaya, archétype image, sambhogakaya, épiphanie, nirmanakaya. C'est le même sens. Nirmana veut dire émanation, apparition, expression de, l'expression du vide. En vertu de la vacuité de réalité, comment ça s'aspecte les choses? Par exemple, prenons la lumière, au sens physique du terme. La lumière, dans sa nature propre, est invisible. D'accord? On ne voit pas la lumière, elle est invisible. Dès lors que tu désignes une lumière jaune de ton halogène, c'est un aspect de la lumière. C'est-à-dire son invisibilité peut prendre l'aspect de jaune parce qu'il y a des causes et circonstances. C'est l'épiphanie de la lumière. Théophaniquement parlant, pour faire des parallèles, oui, théophaniquement parlant, la lumière est invisible, mais rend visible. Si elle se rendait visible, elle ne pourrait pas rendre visible l'apparence. Vous me suivez? Ah, non, mais la nature même de la lumière est là, la nature même de la lumière. D'accord? Et après, il y a une diffraction de la lumière. D'accord? Nous, on voit que l'aspect. Et on va dire, hein, si on voit une lumière rouge, on dit une lumière d'aspect rouge. Mais ce n'est pas la lumière. La lumière est vide de caractéristiques de rouge, bleu, jaune. D'accord? Mais quand on passe par le prisme, d'accord, on voit se manifester la lumière. Donc, ce miracle de la diffraction de la lumière, c'est ce qu'on appelle le sambhogakaya. D'accord? Et maintenant que ça prenne des aspects, hein, l'arc-en-ciel, ça prend des aspects, de différents aspects, mais en même temps, il n'y a pas de frontières. Ça glisse, hein, les différentes couleurs, etc. Et bien, ces différents aspects, malgré qu'il n'y ait pas de rouge en soi bien délimité dans l'arc-en-ciel, il y a quelque chose qui se présente, qui prend l'aspect de rouge, d'accord, mais qui va fondre légèrement dans l'autre couleur, je ne sais plus laquelle, d'accord, hein, peut-être le vert, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça, c'est l'épiphanie, c'est le nirmana. Nirmana, d'accord, ça va? Ça va, Amina?
Ça va, mais c'est un recoupé.
C'est un exemple.
C'est un recoupé.
La lumière, la nature fondamentale de la lumière, est l'invisible. Elle est invisible. Elle est mystère. D'accord? Mais ce mystère permet qu'elle s'aspecte. Et s'aspecter, ça veut dire en conformité à la relativité. D'accord? La lumière ambiante de l'univers s'aspecte en conformité à une relativité cosmique. D'accord? La lumière traverse l'espace de l'univers. Et pourtant, il y a des zones noires. Oui, mais c'est lumière. D'accord? Mais, par respect, le mystère théophanique de la lumière ou du dharmakaya se prête à prendre l'aspect de noir. C'est pas l'aspect de noir, c'est l'aspect d'absence de mise en œuvre qui fait l'obscurité. Mais c'est pas une absence de lumière. Sinon, on ne verrait pas le noir non plus. D'accord? Ça va? Dans sa fonction de rendre visible, hein, d'accord? C'est par retrait de lumière que le noir se présente. Mais c'est l'extrême. Mais il n'y a pas de noir absolu. Hein. C'est toujours un bleu foncé, on va dire. Puis on voit la lumière qui se projette des étoiles lointaines, des galaxies, etc.
Quand tu dis la nature de lumière est invisible.
La nature ultime, la lumière est l'invisibilité, oui.
La nature ultime.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire par ultime? Nature ultime.
C'est-à-dire rien, par ultime, c'est par absence de, il n'y a pas quelque chose comme étant de la lumière. Mais elle se présente, on se dit, il y a de la lumière puisque je vois les choses. Mais ces choses se voient parce que justement, la lumière est invisible. Elle est une fonction elle reste une fonction, comme l'esprit. Il n'y a pas quelque chose comme étant l'esprit, n'empêche qu'on connaît. Donc, du fait qu'on a une fonction cognitive, on appelle ça l'esprit, mais il n'y a pas quelque chose comme étant l'esprit. On reconnaît les choses par leur fonction évidente. D'accord ? Cette fonction, c'est Samboka Kaya. D'accord ? Et ensuite, la matérialisation, l'impact de cette fonction, c'est Nirmana Kaya. L'impact. Impact. L'apogée, qui va être fugace, hein, de nouveau l'élémentaire, vous vous souvenez. Donc bien sûr, dans Trikaya, c'est une trinité qui, on peut le prêter à la lumière. La lumière est un Trikaya. D'accord, ça va, hein. La table a un Trikaya. D'accord, une nature triple. D'accord. Mais ça se prête plus à l'individu. L'individu a une trinité, un trikaya, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas mis en œuvre, parce que, voilà. On saisit l'esprit comme étant quelque chose. D'accord. On ne sait donc pas utiliser de façon vertueuse les fonctions cognitives de l'esprit pour nous éveiller. D'accord. Et va se manifester de façon aspecter, impact, hein, la souffrance. Si on enlève les différents voiles, les différentes illusions, la saisie, la soif, l'ignorance, la discrimination, etc., eh bien, cette trinité ordinaire va se révéler Trikaya, trinité éveillée, enfin libérée des illusions. Aspect. A-S-P-E-C-T. Voilà.
Aspecter.
Ouais. Prendre aspect. Prendre un aspect. Le rouge du tapis, c'est un aspect dans un moment donné. Il est déjà passé à un autre aspect. Une transition d'aspect. C'est la loi de l'apparence. Transapparence. Tout se transforme constamment, transitoire. Il n'y a pas un moment de rouge, une frontière, un autre rouge, c'est un glissement d'aspect. En vertu de la relativité, le rouge du tapis est son Nirmanakaya, son épiphanie. Mais il n'y a pas de rouge, de tapis rouge en soi. C'est le Dharmakaya, le mystère du tapis. Il n'y a pas de tapis rouge. D'accord. Il y aurait un tapis rouge en soi, c'est faire fi du Dharmakaya, la vacuité de rouge en soi du tapis. Mais s'il y avait un tapis rouge en soi, il serait vu comme tel par tout le monde. D'accord. Vous comprenez. S'il y avait un tapis rouge, s'il y avait un rouge en soi, c'est-à-dire qu'il préexisterait à ma connaissance. Il aurait une naissance avant d'exister à ma connaissance. Oui ?
Je décrochais.
Oui, je sais, c'est délicat, mais il faut passer par là. Si on veut s'éveiller, il faut comprendre ne serait-ce que ça, pour arriver à quelques vacuités déjà. C'est réaliser quelques vacuités.
Logique, mécanique.
Un rouge en soi, ça veut dire absolu. D'accord ? Ça va ? Une entité, un absolu, une réalité propre, c'est des synonymes.
Les mots, oui.
Oui.
Les mots, oui, je les entends.
D'accord.
Les mots, je les entends, mais...
Voilà. Rouge en soi, ça veut dire que le rouge existe à part entière comme étant rouge. Et non pas rouge selon les circonstances. Le rouge est relatif, il n'est pas absolu. Oui ?
C'est une synthèse que je n'arrive pas à
faire. Oui, je sais. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de problème, je suis là pour expliquer. Hein, si on veut bien, après si tu me dis c'est pénible, j'arrête, il n'y a pas de problème.
Je vais continuer parce que je crois qu'il y a un endroit où j'ai dû louper
que les choses soient relatives, tu comprends?
Non,
t'arrives plus. T'arrives plus?
Bon.
Hein? Pardon?
Il
bloque. Oui, je sais bien, ça arrive, hein, ça peut arriver. Hein. Pas de problème. Et c'est la clé.
Moi, hein. Ça m'intéresse.
Moi, je continue pour Amina et les autres.
D'approfondir.
De en soi, ça veut dire qu'il existe en soi, c'est-à-dire qu'il y a une naissance. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne dépendrait de rien d'autre. Alors que l'affirmation, c'est relatif. S'il y avait un rouge en soi, il serait ferme et définitif, une entité, ce qu'on appelle une entité, ferme et définitive, qui ne dépendrait de rien d'autre que de lui-même, même pas. D'accord ? Et donc, tu éteins la lumière, le tapis resterait rouge. D'accord ? Maintenant, si c'était rouge en soi, il resterait, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la relativité extérieure, les circonstances, les contextes, et même quel que soit l'œil qui le voit. Un chat verrait un tapis rouge. D'accord ? Ce rouge est une caractéristique transitoire. Et transitoire, c'est l'affirmation qu'il n'y a pas de soi, dans soi, d'absolu, du rouge. Il transite constamment. Même à, depuis le temps qu'on en parle, il a transité le rouge. Ce n'est pas le même. Il est fluctuant. Oui. On éteint la lumière, c'est pas le même rouge. D'accord ? C'est ça le sens d'aspect. Il prend l'aspect au gré des circonstances de la relativité. Et cet aspect de couleur de tapis prend même l'aspect au gré, en conformité à l'œil de celui qui voit. Si c'est un œil de mouche, c'est pas le même, la même couleur, la même radiation. D'accord ? Le Sambhogakaya, hein, va se prêter, hein, d'accord, pour prendre un aspect conforme à un instant donné. C'est le Sambhogakaya qui fait cette magie que ça s'aspecte. D'accord ? Sambhogakaya, c'est vraiment jouir, faire usage de. C'est le sens de Sambhoga, faire usage de. Dire, même la radiation de la lumière fait usage des circonstances et se prête aux circonstances. D'accord ? S'il y avait un rouge en soi, il s'imposerait à tous les yeux. Oui ? C'est assez simple à comprendre. C'est une logique à comprendre, la différence entre le en soi, absolu, entité, réel, et relatif, transitoire, interdépendant. Opposez tous ces deux familles de mots. Réfléchissez, vous avez déjà compris la relativité. Quand vous entendez quelqu'un parler vite et il a affirmé quelque chose d'absolu, vous le reprenez. D'accord ? Si vous entendez quelqu'un dire « Ouais, les femmes toutes les mêmes », c'est un absolu, catégoriel. Vous dites, non, peut-être pas ma mère, non. Ben, vous avez relativisé. On a une pertinence inouïe, d'accord ? Mais on ne sait pas l'utiliser. On sait très bien la relativité, mais ça nous ennuie. On voudrait du raccourci. Vous ne pouvez pas me trouver quelque chose d'absolu ? Alors, les gens qui veulent toujours trouver des absolus, comment ils font ? Ben, ils font un amalgame, une définition à l'emporte-pièce. Toutes les femmes sont, tous les hommes sont, d'accord ? Par exemple, c'est très vulgaire, hein, comme exemple, d'accord ? Hein ? Ou tous les hommes qui ont une barbe, voilà, toutes les femmes à lunettes sont, voilà. Je fais sciemment des raccourcis, des clichés, hein, parce que c'est faire un cliché. On prend une photo d'un tapis rouge, tac, et il est rouge. Regarde, il est rouge ton tapis, d'accord ? Ben, c'est ce que fait l'esprit. Ce qu'on appelle la saisie, il prend une photo et il s'en tient à ça. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on dit la première impression est la bonne. C'est-à-dire, hop, on l'imprime, première impression. Et on est influencé par la première impression. Si on ne relative pas, si on ne relativise pas notre relation à l'autre, à la perception qu'on a, et laisser nos systèmes réducteurs d'étiquetage de la personne. Si pour la première fois, Hein, on voit Sherab en train de déconner, rire et tout. On dit Sherab, c'est un drôle. D'accord? Hein? Et puis après, on s'habitue. On l'a catégorisé, vous voyez? C'est valable pour tout le monde. Hein? Je donne un exemple. Hein. Et puis un jour, cette même personne, elle ne me voit plus déconner. Mais t'es triste, t'es devenu triste. C'est-à-dire que tu n'es pas celui conforme à l'originel. On a fait ce qu'on appelle une caractérité, une saisie d'une caractérité. Il est drôle. Ou si on voit quelqu'un, pour la première fois, quelqu'un qui fait 120 kilos, il est gros. D'accord ? Puis on le voit, on continue à le voir, gros, etc. Puis à un moment, une petite absence de 2-3 ans, on le revoit, il a perdu 40 kilos. Mais t'as maigri. L'aspect réducteur de sa personne, c'était « il est gros ». Et à partir de ce référentiel, bah, tu as maigri. Non, quand tu m'avais vu, j'avais grossi. Je relativise. D'accord ? Mais je suis ni gros ni... C'est pas moi, gros. D'accord ? C'est pas ma personne. Mon corps, éventuellement. D'accord ? Donc c'est ce système réducteur qu'on appelle la saisie. Parce qu'on a envie, par paresse, d'absolu. D'accord ?
Ouais, tu appelles ça envie par paresse.
Mais oui, c'est une paresse. Parce qu'on n'a pas envie de relativiser, etc., etc. Bien sûr, ça serait fatigant. On le fait pendant les sessions de méditation, on réalise une vacuité, c'est valable. Après, la conscience, elle continue. Ça y est, elle est informée de la désillusion. Hein. On réalise la vacuité de ce qu'on appelle l'absence de caractérité propre. D'accord ? Et bien, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu le laisses être dans son apparence, son épiphanie, on va même dire. Tu vois ? Son nirmanakaya. On laisse à l'être le soin d'apparaître. Ce qu'il est, s'il est dans une apparence de colère, mais c'est nirmana qu'il y a. D'accord ? Oui ?
C'est pas seulement la paresse, à mon avis, c'est aussi le sentiment que je sais. C'est l'orgueil de savoir.
Oui, aussi. Alors, à la racine de tout, c'est la peur. La racine de tout, c'est la peur.
La peur de ne pas.
La peur, parce que la relativité, ça veut dire une plénitude. C'est vertigineux. Ne pas avoir l'impossibilité de définir, voilà. De conclure, de
s'accrocher à quelque
voilà.
chose et
voilà.
Voilà, je suis.
C'est ça.
Là,
donc on fait, selon nos capacités à affronter la peur, ben, on fait des réductions. Les gens qui ont très peur finissent par une sorte d'intégrisme dans les mouvements spirituels, dans la politique, c'est les extrémistes, hein, d'accord, qui vont rechercher un bouc émissaire sociétal, et ainsi de suite. Les immigrés, vous voyez, par exemple. Hein. Et tout ça, c'est un système de réduction, qui rose, poussé par la peur. D'accord. Tant qu'on ne voit pas que c'est poussé par la peur, eh ben, cette peur va être la source, enfin le comment, une alimentation à un démon, une nourriture. Alors c'est différentes peurs, oui. Hein. Mais cette peur va être une nourriture pour un démon qui va s'en nourrir et qui va vous faire en sorte de faire un déni de cette peur. Mais non, j'ai pas peur des blacks, j'ai pas peur des arabes, c'est des violents, point barre. Mais si t'as une peur de l'inconnu, ou une peur machin, etc., tu scléroses, etc., d'accord ? Et le démon va te prédire, non, j'ai pas peur, par exemple. Il y a une personne, une fois, c'était flagrant, hein, elle était en colère, une amie me dit, mais t'es en colère contre Charles. Non, je suis pas en colère. On fait un déni. Mais t'as le droit de ne pas l'aimer, qu'il est pénible. Moi, je suis le premier à dire que je peux être pénible. Hein. Je suis, sous polaire peut-être. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord ? Mais il n'y a pas lieu de faire un déni. Si on fait un déni de la peur, hein, la peur, c'est un hymen, j'appelle ça. Une petite membrane à dépuceler. D'accord ? Et c'est ça que nous invite Chadrupa. À dépuceler pour ne pas avoir peur d'avoir peur. Ne pas avoir peur de peur, des peurs. Les peurs sont des éveils, mais on les interprète comme étant des peurs, parce que cet éveil contrarie nos habitudes. C'est tout. D'accord.
Il n'y a plus de référence pour stabilité, pour stabilité qu'on a construite.
Par exemple, Jean-Michel, là, à un moment, tu satures, d'accord, hein? Très bien, il n'y a pas de problème. Hein? Tu as une hygiène, tu as un équilibre, d'accord, et tu sais gérer. Il y a d'autres personnes qui ont peur de ne pas comprendre. Je sais qu'à un moment, certaines personnes saturent et ils paniquent, d'accord. Et là, s'ils disent « non, je n'ai pas peur de ne pas comprendre », ils vont appliquer « non, tu es compliqué ». Donc ils vont faire une discrimination, tu es compliqué, moi de toute façon je ne veux pas comprendre, de toute façon ce n'est pas la peine pour m'éveiller. Et bien ça y est, ils en ont fait un démon. Ils ont fait une catégorie, hein, d'accord, que comprendre ce n'est pas nécessaire. Parce qu'ils ont peur de se voir ne pas comprendre. Alors que c'est une stimulation fabuleuse. D'accord. Mais c'est vrai, on peut avoir une saturation, tout le monde. Toute personne intelligente peut avoir une saturation, hein, où on n'est pas dans... On ne peut pas... assimiler trop de choses, etc. C'est tout à fait normal. D'accord. Mais on peut le faire sans avoir peur d'avoir cette peur de ne pas comprendre. Ben oui, j'ai peur, là, je ne comprends plus, etc. Point barre.
J'aime bien ce que tu as utilisé, parce que déjà, ça m'arrivait, oui, et ça me prend service sur ce que tu dis là, parce que ça donnait une panique de ne pas comprendre.
Oui.
Parce que là, je me suis dit, bon, ben, je l'ai déjà entendu, ça va revenir.
Oui, voilà. Eh bien, tu as assumé de ne pas avoir peur de cette peur, et c'est devenu autre chose qu'une peur. Une gestion du stress, de la saturation, etc. Mais j'ai vu des fois des personnes qui sont restées sur cette peur et tout rejeté après. Et puis après, incriminer, oui, le bouddhisme, c'est très compliqué, c'est pour les intellectuels, ou tu es intellectuel, etc. etc. C'est trop compliqué. Parce qu'ils n'ont pas assumé ce moment de passage. D'accord ? Et puis simple, hein, que ce soit simple.
Je sais que ma non-compréhension est certainement un espace d'absence où je t'ai pas entendu. Quoi.
Oui, mais c'est simplement une autorégulation de la conscience. Et la saturation, hein, son estomac de la conscience et la saturation, tu es arrivé à satiété en quelque sorte, c'est tout à fait normal. La conscience, c'est comme un estomac ou comme un cerveau, etc. Il y a une saturation, c'est tout à fait légitime. Et je sais que je peux provoquer ça. Si...
Non, c'est pas toi, c'est...
Non, mais je sais que... Parce que expliquer, hein, ça peut être pénible, etc. Moi, en tant que celui qui enseigne, je ne sature pas. Parce que...
Ah,
mais si je serais à votre place, je saturerais. Hein.
C'est
rien.
Dans ces subtilités-là, oui, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Et j'en profiterai pour dire, par rapport aux écrits, le verbal et la présence... Il y a le gestuel, il y a les mimiques qui rajoutent à la compréhension.
Mmh, tout à fait. Et maintenant, si on veut affiner ça, quand il y a l'approche de saturation par « je ne comprends pas », il y a le mystère qui passe. Et là, il faut savoir aussi, quand on est chez soi, par exemple, on peut arriver à lire un livre un peu compliqué, enfin philosophique, machin, il y a un moment, tac, hein, il y a un moment, il y a une sorte de... On lâche quelque chose, ça dépasse un peu l'entendement, hein, etc. On lâche, on pose le livre et on médite. Ça vous est arrivé certainement. Hein, et ben, vous êtes en train de faire un vipassana spontané. Et vous restez dans... Parce, et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir peur de ne pas comprendre, parce qu'à un moment, il peut y avoir un petit hymen qui se... Là, hein, d'accord. Et on n'a pas fait un démon. La contemplation, la vision pénétrante, le calme mental, c'est samatha.
Ah oui, je mélange. Contemplation, vue pénétrante, c'est ça?
Vision pénétrante, on dit vue pénétrante, vision. L'intuitio en grec. Et pour être dans l'intuitio, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Et au moment où on n'a plus peur d'avoir peur, ça se révèle, ça ne s'aspecte pas comme une peur. Ça s'aspecte comme une révélation. C'est pour ça que je parle d'un hymen, un seuil. Un hymen, vous voyez ce que c'est, hein? Il y a un dépucelage qui se fait. Un dépucelage qui peut aussi avoir des conséquences au niveau du corps, parce que ça touche les chakras, machin, etc. C'est des dépucelages. C'est pour ça que l'intérêt de Chadrupa, c'est montrer ne pas avoir peur d'avoir peur. Tu réécouteras. Arrête de noter.
Si, ça, je trouve que s'il y avait quelque chose
Tu comprends?
Mais avoir. Ne pas avoir peur de la. De ne pas avoir peur d'avoir peur, est-ce que c'est la base et c'est général?
Je vois pas la différence. Oui, c'est une base générale.
C'est une base générale.
Là, j'ai rien compris. Hein. Ouf, j'ai pu ne pas comprendre. On revient aux racines. Yidam racine. Yidam racine, hein, revoyez sur le site aussi. Le Yidam racine, c'est une protection contre l'idolâtrie. Déiste. Déiste, c'est-à-dire prendre une divinité pour réelle. Et même théiste. Hein, d'accord ? Prendre le Bouddha pour une entité transcendante, une instance supérieure qui plane au-dessus de tes têtes, voilà. Un Big Brother, je ne sais pas quoi. Voilà. Yidam racine. D'accord ? On ne prend pas refuge dans une divinité, on prend refuge, hein. Enfin, on ne prend même pas refuge, hein. Mais la divinité n'est pas un refuge, d'accord ? C'est une représentation, un moyen habile, hein, d'accord ? Pour faire un interface par le biais des symboles à une nature invisible. D'accord ? Vous me suivez ? C'est ce que dit les soufis, hein, l'archétype image. On utilise de l'image pour quelque chose qui ne peut pas être mis en image. Mais il faut être sciemment averti que c'est des représentations. Si on prend l'image pour une réalité, hein, la compassion à quatre bras, il est blanc, c'est quelqu'un qui a quatre bras. Et bien là, l'image devient idole, base d'idolâtrie.
Et comment ça se fait que là, tu parles de l'image dans le soufisme, mais il n'y a pas d'image, à part dans les mots, lui-même.
Alors, il n'y a pas de représentation picturale de type humanoïde. Ouais. D'accord,
hein. Il n'y a aucune représentation.
Oui.
Aucune.
Oui. Mais quand on dit archétype image, c'est des représentations de l'esprit, pas des dessins. Tu n'échapperas pas à l'imaginal.
Oui, on n'échappe pas à ça.
Donc voilà, cet imaginal, c'est un sambhoka kaya, c'est une boîte à trésors qu'il faut ouvrir et voir la splendeur. Voilà. Mais dans la Bible où, justement, il est interdit de représenter Dieu, d'accord, hein, les gens se sont arrêtés à la première formule. Parce qu'il n'est pas représentable. Dans le judaïsme, il n'est pas nommable. Il a le nom de Dieu est composé de je ne sais plus combien de lettres, 42 je crois, hein, 42 lettres, il faut les laisser dans le désordre. D'accord ? Si vous les remettez dans l'ordre pour le nommer, c'est considéré comme blasphème, c'est-à-dire que c'est non vertueux. Enfin, on peut finir par être dans la folie peut-être. D'accord ? Donc hein, dans le judaïsme, on nomme pas Dieu, hein, même si on lui donne des noms, Elohim ou je sais pas quoi, etc. D'accord ? On lui donne des fonctions.
Oui.
C'est des fonctions.
Oui, c'est ce qu'il y a dans le...
Tout à fait. Voilà, c'est des fonctions.
Ce sont des fonctions.
Au sens strict, voilà, c'est très... C'est comme ça. Comme nous, enfin, en tout cas, moi, un Bouddha est une fonction cognitive. D'accord ? C'est pas une entité, c'est pas un individu. C'est pas... Ça désigne pas un individu, mais la nature cognitive libérée d'illusions. Si on parle de fonction, on ne sera jamais dans l'idolâtrie. Donc, dans le passage de la Bible, je ne sais plus comment il s'appelle, le Deutéronome, je ne sais plus, c'est un nom, vous ne m'en voulez pas. Dans ce passage de la Bible, il y a d'abord l'interdiction de représenter Dieu, de tenter de représenter Dieu, mais en même temps, s'il y a lieu de le représenter, le prend comme des représentations. Attention, il n'est pas limité. Ce n'est pas un veto comme ça, on n'a pas le droit de représenter Dieu. Mais si vous voyez une représentation, une image de Dieu, prenez-la comme une représentation. Si vous voyez une image du Christ, ce n'est pas une photo de Jésus-Christ. C'est une représentation.
Oui.
Hein? Alors, il y a une représentation hollywoodienne, un grand blond avec des yeux bleus, hein? Mais il était sémite quand même.
Oui.
D'accord. Voilà, donc vous voyez la représentation. Il y a une limite de la représentation, d'accord, mais il faut le savoir. Et dans l'enseignement bouddhique, on parle de tanka, dans l'orthodoxie on dit d'icône, un peu comme en informatique, c'est une icône. D'accord, c'est une représentation iconographique, avec une symbolique, etc. etc. D'accord, mais ce sont des représentations. D'accord. Et là, si on s'en tient au fait que c'est des représentations qui peuvent aider, on peut faire à l'infini. D'accord. Il n'y a pas de limite. Mais bien sûr, dans la règle des symboliques, il y aura des limites. Hein. Les cinq couleurs, etc.
Mais tu dis que la visualisation est importante pour la méditation, pour la contemplation.
Dans le tantra, on met de l'importance dans la contemplation visuelle d'image. La contemplation d'image.
Et les plus importantes que le mantra.
Ah non, il y a une synchronicité des deux. Hein. S'il y a visualisation, il y a récitation yogique du mantra. Ça va de pair. Le son et la lumière. Pour visiter l'esprit, il faut mettre le son et lumière. Comme une visite d'un château fort. On veut visiter.
Ça, c'est dans le tantra, mais dans le mahamudra.
Il n'y a pas de visualisation, il n'y a pas de mantra.
C'est comme dans le soufi.
On ne sépare pas la visualisation du mantra et le mantra de la visualisation. Réciter un mantra sans visualisation, ça ne sert à rien. Visualiser sans mantra, ça ne sert à rien. Même si on visualise des choses non humanoïdes, comme des chakras, des tiglés, etc., bon, on fait une récitation mantrique, des lettres germes, etc.
Mais dans le mahamudra, il n'y a pas de mantra.
Non. Mahamudra, ce n'est pas du tantra.
Oui, je sais.
Dans le mahamudra, on va au dharmakaya même. Dans le tantra, on utilise le sambhogakaya et le nirmanakaya pour arriver au dharmakaya. Ça va? Pour résumer. Donc, yidam racine, ce n'est pas la divinité qui va nous protéger. Si on le croit, on est dans l'idolâtrie. Alors peut-être que ça existe une divinité, d'accord? Il faudrait éventuellement me le prouver à soi-même, d'accord? Hein? Donc le yidam racine, c'est une vue qu'on met sur la divinité. Comme le lama racine, c'est une vue qu'on met sur un lama, sur un événement, sur un livre. Et bien là, à chaque fois qu'on a affaire à une icône, on met le sceau du yidam, qui nous renvoie à la radicalité, à nos fondements de notre esprit, de notre nature cachée. D'accord ? Racine. Ça va ? Hein ? Le yidam, c'est un sceau qu'on met sur la divinité. Ce sceau est la coémergence de clarté et vacuité. Avec le lama, racine, la coémergence, c'est compassion vacuité. Si on veut faire des coémergences bien particulières. C'est utile quand on va arriver à bien méditer et à bien générer la divinité. Quand on génère bien la divinité, il y a des moments, plus ou moins brefs, de vision. D'accord ? C'est une science visionnaire contemplative. Hein ? Les tantras, l'orthodoxie et le soufisme. D'accord ? Il y a des visions. Et les visions, c'est ce qu'on appelle numineux, une preuve. Droup, un sidi. D'accord, c'est lumineux. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu les différentes visions possibles du lumineux. Numineux. N-U-M-I-N-E-U. Numen, ça veut dire preuve. C'est l'équivalent du mot sidi, accomplissement. Un accomplissement qui fait acte de preuve, probant. On a rencontré, ça y est. Lumineux.
Et
J'avais fait un texte où je résumais les différents aspects lumineux de l'expérience. Toute modestie, toute proportion gardée. Hein. Mais quand on médite, quand on médite bien avec la concentration, il y a des mécanismes visionnaires lumineux qui font acte que tu as abouti à ta concentration tantrique. Il y a du lumineux visionnaire, il y a du lumineux auditif aussi. Peut-être d'autres. Moi, je parle de mes expériences. Hein. Je ne connais pas d'autres. Olfactif, peut-être, je ne sais pas. C'est possible. Hein.
C'est comment lumineux ?
Nu.
Lumineux.
Lumineux. N-U.
Oui, mais le deuxième ?
Je sais pas.
Auditif.
Visionnaire et visuel et
auditif.
Auditif.
Comment c'est l'auditif ?
Eh bien, tu entends les sons. Mais c'est de l'ordre de l'hallucination. Hein. D'accord. Dans le bouddhisme, c'est de l'ordre de l'hallucination visionnaire.
Quand tu entends des voix,
tu peux entendre des bribes d'enseignement. D'accord. Voilà. Tu peux entendre le mantra s'énoncer de lui-même, partant des lettres germes. Il y a différentes expériences comme ça.
D'accord.
Quand on est vraiment dans le yoga, hein, la jonction même. Hein. C'est très, très rigoureux, hein. Le bouddhisme et les autres sciences. Hein. Et c'est de l'ordre de l'hallucination, c'est-à-dire ça procède de la nature de l'esprit dans son mode imaginal. Et là, on joue vraiment, on est dans l'archétype image, dans le sambhogakaya, quand ça vient. Et le danger, c'est de prendre cette vision venant de l'extérieur. Et là, on est schizophrène. C'est-à-dire, c'est une hallucination qu'on ne prend pas pour hallucination. On entend un son, mais qu'on ne prend pas comme étant... hallucination auditive, et on pense que quelqu'un nous parle. Et si on prend réellement pour réel, on va se dire, ah, Dieu m'a parlé. Et moi, j'affirme que Jeanne d'Arc est schizophrène. D'accord? Et si vous avez lu l'évangile de Marie-Madeleine, je le répète, Marie-Madeleine n'est pas schizophrène. Elle explique bien, ma vision m'a dit. Et ainsi de suite. Vous voyez la différence entre...
Elle reste dans son centre.
Elle reste dans son centre, etc. Et tu peux interroger... Je ne veux pas parler de mes expériences, mais tu as presque un dialogue. C'est très subreptice, hein. Peut-être pour des grands méditants. Hein. Mais voilà, mais c'est le verbe interne, c'est le verbe intérieur. Le mantra, c'est le verbe, le logos. Ce n'est pas une formule, le mantra, hein, avec des énergies. Non, ce n'est pas ça. C'est un yoga où tu pénètres tes souffles qui sont le verbe. Hein. Tes souffles, hein, sont comme des fils d'un pantin quand tu es dans l'illusion. Et après, ça devient... Tes manettes à toi. Tu es l'acteur de ton devenir. Et tes souffles, t'es plus le pantin de tes fils d'impulsion karmique. Et c'est pour ça que le mantra est très important dans le tantra. Mais yoga de la récitation mantrique avec visualisation tantrique. Les deux vont de pair, on ne sépare jamais les deux. Après, moi aussi, je récite comme ça, tu t'aides des mantras, hein, mais sans aucune attente. C'est pour dégourdir l'esprit, pour chasser un peu voilà, des choses comme ça, de façon très surface, si vous voulez. Mais c'est bien. Mais pas penser que le mantra a une énergie particulière qui nous envoie une magie et qui n'aura rien à faire que réciter le mantra. Voilà. Tu radotes, bah, tu récites un mantra à haute voix, puis ça passe. Mais attention, il n'y a pas de magie. Dans la formule. Et mantra ne désigne pas tant. Le mantra ne désigne pas tant la formule, mais la façon de réciter. Le mantra désigne un yoga de récitation, et non pas la formule. Il y a une confusion aussi. Hein.
Oui.
Oui, vas-y, Amina. Bien sûr, ils ont un sens sémantique.
C'est le sens qui va donner peut-être l'image, mais en tout cas, Il n'y a pas d'image. On n'a pas d'image à visualiser. On n'a pas d'idam, on n'a pas. Sauf le.
Tu n'as pas d'image au sens de dessin à visualiser. D'accord ? Mais tu as une évocation.
Il n'y a pas
de. Tu as une évocation. Oui.
Quand on parle de. Il n'y a pas de réalité que la réalité divine, on arrive avec des lettres qui pour moi, qui touchent les chakras aussi. Parce que le fait de le faire descendre jusque-là, ça fait le I, le A.
Reviens à. Il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas d'image, et donc on ne fait que ça. On est là, tac, 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 tu peux le faire
Il n'y a pas d'autre consigne.
Il n'y a pas d'autre consigne. Il n'y a que ça. C'est-à-dire ça, là, je parle pour cette phrase-là. Il y en a d'autres phrases, par exemple, vous.
On ne te propose pas une attitude mentale. La foi, la dévotion,
voilà,
non.
Et voilà, la pratique que donne le maître, ça s'appelle le Wird, c'est le matin et le soir, et après il y a la pratique qui est en groupe. Plus les sectes, on a pas l'islam exotérique, hein, ça c'est l'ésotérique, et plus les rencontres avec l'éveillé, etc. On n'a que ça, on a des choses à citer, plusieurs fois.
Et le sens du le sens de vos mantras, si j'ose dire, le sens véhiculé dans les mots du mantra, qu'est-ce que t'en fais ?
Voilà.
Qu'est-ce que t'en fais ?
Qu'est-ce que t'en fais ? On est dans le sens. C'est-à-dire qu'il n'y a que le sens du mot.
Oui, et qu'est-ce que t'en fais de ce sens ? Et qu'est-ce que t'en fais de ce sens ? Si le mot a un sens, qu'est-ce que t'en fais ?
Je ne fais rien, je me laisse faire, je ne sais pas.
Comment tu peux laisser faire un sens du mot ?
Je ne sais pas.
Ben, je sais pas, c'est comment tu pratiques ?
Ben, je pratique comme ça, comme je te dis.
Oui, mais comment tu pratiques ? Explique-moi, comment tu fais ?
Je fais.
Tu fais quoi ?
Ben, avec le chapelet, on fait.
Non. Tu dis que les mots de ton mantra ont du sens. Bien sûr, heureusement. Hein. D'accord ? C'est un sens sémantique. Mais comment tu fais pour t'approprier ce sens ? Pour le mettre en activité, si tu veux ? Comment il s'active, ce sens du mot ? On t'a donné la traduction du sens d'un mot. S'il est en arabe, nous, il est en sanskrit.
Pas la réalité que la réalité divine. Alors, je prends cet exemple-là, qui est très
C'est
courant.
Quoi ça ? C'est un mantra.
C'est un mantra.
En français.
En français, mais c'est en, d'accord. En arabe. C'est ce qu'il veut dire.
Mais tu ne cherches pas à mettre de sens à ces mots.
Bah, c'est le sens lui-même, là. Il n'y a pas de réalité que la réalité divine. Il n'y a pas d'autre réalité. Il n'y a que Dieu. Tout le reste, c'est une illusion. On le sait. La phrase, elle dit elle-même ça. Tout est illusion.
Comment comment le sens est mis en œuvre pendant que tu récites ? Tu ne sais pas ?
Non.
C'est une phrase en français.
Là, je t'explique en français, mais moi, je le fais en arabe.
Voilà.
Ce sens-là.
Mais on t'a expliqué la traduction du mot arabe.
Mais le mot arabe veut dire ça.
Donc, on t'a expliqué ce que veut dire. On t'a expliqué ce que veut dire.
Il n'y a pas de Dieu que Dieu. Il n'y a pas que Dieu que Dieu.
Tu m'entends ?
Oui.
Oui.
Je te dis ce que je.
Non, tu réponds pas à la question.
Ah. Pardon.
Bon. On t'a donné des mots en arabe et on t'a donné la traduction.
Non.
Bah, tu viens de me le dire, la
traduction.
Non.
Je veux dire, on ne donne pas, on le connaît. On le
tu
sait.
Le connais.
Quand on a
oui, parce que tu connais l'arabe. Tu connais l'arabe.
Oui. Je
d'accord.
Connaît,
bon, par exemple, je dis Ananda.
Comment ?
Ananda. C'est du sanskrit.
Je sais pas ce que c'est.
Pourquoi tu sais pas ?
Que je connais pas, je suis pas,
tu demandes une traduction.
Ouais.
Tu demandes un sens du mot. Mais ouais. Si je te dis, récite Ananda à perpète. Ananda, Ananda, Ananda.
Je ne comprends pas le mot.
Donc tu as besoin du sens.
Oui.
Une fois que tu auras ce sens.
Déjà.
Et une fois que tu auras ce sens du mot Ananda en sanskrit, qu'est-ce que tu vas en faire pendant ta récitation ?
J'y pense à ce sens.
Tu le penses à ce sens ?
Oui. Je suis dedans. Je le fais.
Et voilà. Ça veut dire quoi être dedans ce sens ?
Connexion avec.
Par exemple, Ananda, je dis peut-être une bêtise, c'est paix. D'accord ? Ça veut dire paix en français. Enfin, on le traduit par le mot paix.
D'accord ?
Maintenant que tu sais ce sens, tu récites Ananda, Ananda, Ananda. Hein ? Mais tu ne connais pas le sanskrit. Donc,
la paix,
tu ne connais pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, tu t'appropries bien le sens.
Ouais.
Tu te l'appropries intellectuellement parlant.
Ouais.
Le sens ne vient pas de lui-même, sinon tu aurais entendu le sens quand je te disais Ananda.
Oui.
Donc il faut bien une traduction. Oui. Cette traduction te renvoie à une appropriation intellectuelle de, oui. du sens.
Oui, oui.
Donc c'est ce que je te demandais. Comment s'active ce sens? Tu te fais une appropriation intellectuelle du sens.
Oui.
D'accord? Et qu'est-ce que fait ensuite cette appropriation intellectuelle du sens?
Oui.
Qu'est-ce que ça produit en toi? Est-ce que ça produit quelque chose? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que le fait de faire blablabla, d'accord, avec le sens, enfin voilà, paix, hein, tu t'appropries bien le mot paix, ça a du sens pour toi. Donc c'est une appropriation intellectuelle, une appréhension intellectuelle, hein, du sens qui débouche sur quelque chose. Qu'est-ce que ça génère? Comment tu produis une génération de ce sens? Sinon, tu restes intellectuel. Tu fais juste paix, et c'est tout. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu dois savoir ce que tu fais.
Qu'est-ce que
tu fais? Ou ce que tu ne fais pas? Je ne sais pas. Te connecter à la paix, ça veut dire quoi? Te connecter à la paix, ça veut dire quoi?
Sentir un peu la paix.
Ouais.
Voilà.
Vas-y, continue.
Espérer à la paix.
Oui. Oui.
Envie d'avoir la paix.
Oui.
Je sais pas.
Voilà.
Pour moi,
tout à fait. Voilà. Tu fais entrer le sens du mot paix évoque quelque chose.
Oui.
Donc c'est ce que j'appelle la conscience évocatrice. Cette conscience évocatrice est image. T'as une image de paix. Le sens sémantique du mot ne produit rien d'autre que... pour le sens sémantique du mot paix, culturel en français, machin, d'accord, t'es obligé de passer par une appropriation intellectuelle de ce sens sémantique pour passer après à un mode sensitif et... évocateur, et c'est cette conscience évocatrice qui est la base de l'archétype image. Et toi, tu dis, on n'a pas d'image, parce que toi, tu penses image, dessin. Mais moi, je me passe des dessins. Et même, on dit même, il faut ne pas avoir de tanka, de dessin, parce qu'on fait un copier-coller avec les yeux.
Et ça bloque quand même pour les compassions.
Tu dis compassion, comment ça s'est fait? On demande un enseignement à un yogi éveillé. Faites-moi un tantra de la compassion. Il réfléchit, compassion, le sens intellectuel de compassion, qu'est-ce que ça évoque? La pureté, il veut dire visualiser une divinité blanche. C'est tout. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il est passé ce que tu fais naturellement, parce que tu ne peux pas te passer de faire ça. Mais si tu ne sais pas le faire sciemment, attention, tu n'auras pas de fruits. Il faut voir que tes mécanismes, qu'on appelle les cinq aguillas, t'as une forme sémantique, un son, l'agrégat forme, manifeste, paix. Ensuite, t'as une forme sémantique, appréhensible par l'intellect, d'accord? Le sens. Paix, c'est pas guerre, d'accord? C'est clair?
Oui.
Oui, voilà. Et paix a une connotation, cette connotation, c'est d'image. Tu comprends? Ça va? Et c'est ça que tu fais quand on récite. On associe l'image. Ensuite, effectivement, la paix, et c'est très largement suffisant, dans la forme soufi, hein, et dans le Mahamudra, on dit la nature de l'esprit. Alors, on ne fait pas de mantra récité, mais on peut commencer un peu comme ça. Hein, on pourrait faire, mais on reste sur un leitmotiv intérieur de la vue, la nature de l'esprit. On ne récite pas, d'accord? Mais on ne se fait pas de représentation imaginée, enfin picture, d'accord? Après, si on veut, tantriquement parlant, on va faire plutôt Sakyamuni, je ne sais pas, ou Vajradhara, voilà. D'accord? Mais on peut se passer de l'imagerie. D'accord? Je fais une différence entre image et imagerie, si tu veux. Hein? Le dessin, si tu veux. D'accord? Mais le mode imaginal fonctionne. Tu as une idée. Hein? Ça connote quelque chose, la paix. Un sentiment, etc. Ben, tu passes par un mode imaginal. Ça ne veut pas dire qu'il y a un dessin tout fait. C'est pour ça que je te titillais. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu ne le fais pas sciemment, tu ne maîtriseras pas les différentes aptitudes à conscience. Si tu espères que c'est le mot paix qui évoque de par nature, c'est comme dire que le rouge existe, que le rouge s'imposera. Et le mot paix imposera son sens. Mais non, le mot paix n'est pas habité d'un sens. Sinon même un Chinois entendrait paix, ou quand je t'avais dit Ananda, tu aurais entendu paix. Tu aurais eu le sens du mot paix. Tu vois ?
Même si on connaît la langue.
Mais non, c'est une fiction, je te dis. Si le sens était inhérent au mot, d'accord, j'aurais pas eu besoin de traduire le mot Ananda. Donc on a besoin du sens sémantique pour pouvoir se l'appréhender. Et en se l'appréhendant, on stimule des archétypes images qui peuvent être culturels ou universels ou autres. Et c'est ça l'archétype image. Qui est associé au Sambo Kakaya. D'accord ? Tu comprends ?
Oui.
Donc on peut faire méditer la compassion avec éventuellement Om Mani Padme Hum et simplement évoquer la compassion sans besoin de faire une divinité, etc. D'accord ? Mais ça sera imaginal. Il y a un moment, d'accord, tu auras un humain, ce qu'on appelle un humain, c'est un Siddhi, une preuve. Hein, que t'as, il y a une conjonction et tu auras peut-être l'image de ta mère, tu vois, tu comprends, ou l'image d'un chien, ou une scène qui viendra, il y a une conjonction qui va se faire, et là on passe en mode visionnaire, c'est un humain, ça y est, tu as contacté la compassion, parce que l'esprit ne peut pas te limiter juste à un bon sentiment de compassion, ça va, dans son fonctionnement naturel, la conscience continue, va te mettre en manifeste, d'accord ? Et tu auras une vision qui a ce sentiment de révélation. C'est waouh! D'accord? Après, quand on est débutant, waouh! Et puis ça y est, tout s'effondre parce qu'on a saisi le spectaculaire. Puis après, le lama dit bon, calmos, ça va. Voilà, etc. D'accord? Et c'est le début de la démarche. C'est pas la fin. C'est le début de la démarche. Après, le lama dit bon, quand tu as ce qu'on appelle la clarté, c'est-à-dire. L'aspect, le moment révélateur visionnaire, unifie ça à ce qu'on appelle le yidam. Et là, tu es sauvé de l'idolâtrie, de la schizophrénie. C'est-à-dire, c'est l'union de clarté vide de réalité propre.
Et là, on peut continuer.
Et on peut continuer pour aller jusqu'aux racines. C'est l'expression de ta nature de compassion inhérente, même si ça prend le visage d'un petit chien. Ou d'une mouche que tu as tuée quand tu étais gamin. Tu comprends ? Ça va ? Je ne mets pas en doute la méthode soufie, hein, elle est très valable. Hein, hein, d'accord, d'accord. Mais je mets en doute l'usage que tu en fais.
Oui.
Tu ne te l'appropries pas, tu délègues au mot mantrique, hein, etc., un pouvoir de donner son sens et il va s'imposer de lui-même. Et là, c'est réducteur, tu saisis.
Oui, je cherche le sens, je fais le sens.
Et tu l'évoques, tu le sens, c'est l'évocation, c'est ça l'archétype image.
Pour celui-là qui n'y a pas trouvé Dieu, c'est vague, c'est complexe, c'est complexe.
C'est vertigineux parce que c'est du Mahamudra direct, voilà, le soufi. Le soufi, c'est du Mahamudra, c'est du Zazen.
Il y a d'autres mots qui.
C'est une voie directe.
Il y a d'autres mots qui me disent quelque chose, comme le latif. Le latif, c'est le contraire de condensé. Alors je sens j'évoque cette légèreté, cette contraire de condensé.
Les voies directes vont tout de suite. La voie directe va tout de suite dans le mystère des choses. Hein. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir peur parce que c'est vertigineux. Donc on peut s'aider avec les amorces mantriques, récitations, pour flirter, pour séduire, machin. Et à un moment, il y aura un silence. D'accord ? Ça va ? Et là, c'est ce qu'on appelle le mantra secret. Hein. Qui est traduit par célébration. On célèbre. Alors, on peut célébrer Dieu. On célèbre la bouddhéité. D'accord ? La nature de l'esprit. J'aime bien ce mot célébrer. Enfin, c'est français, en tibétain, c'est nakpa. Et le vrai sens du mantra, c'est ce nakpa. Après, le reste, c'est des méthodes. Ce qu'on appelle le yoga de la récitation. J'ai fait un petit condensé des yogas de la récitation du mantra. Hein. Extérieur, intérieur et secret. Et il faut y aller, parce qu'il faut aboutir à des expériences, des Siddhis, des numènes. D'accord. Et on voit les fonctionnements de l'esprit, c'est tout hein, ce qu'on voit. Hein. Mais on les a désengorgés des réductions, machin, qui nous encombrent dans cette aptitude.
Côté figé.
Oui, oui. C'est un peu comme refluidifier le flux sanguin. Ben, on refluidifie le flux imaginal de l'esprit. Voilà. Mais après, attention au délire. C'est pour ça qu'on a un racine, yidam racine, pour s'éviter le délire de la schizophrénie. D'accord ? Ben oui. Parce qu'il y a un moment, tu peux saisir ta vision comme réelle. Et ce qu'on appelle, nous, dans la voie yogique, la saisie d'une clarté, de la clarté. Tu l'as saisi, moi je l'appelle le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Quoi. Tu passes un miroir,
bon, hein.
Mais tu n'en ressors pas. Enfin, tu ressors après longtemps. On appelle ça l'enfer Vajra, l'enfer yogique. C'est-à-dire que tu es enfermé dans un domaine de clarté visionnaire que tu ne prends pas comme étant une vision, tu prends pour réel. Donc tu es un peu enfermé dans un beau rêve, hein, mais c'est très très pernicieux. Quoi. On l'appelle Avicii en sanskrit. Et je mets toujours en garde les gens qui commencent à faire les tantras. Attention. Reprenez constamment refuge dans le yidam. C'est-à-dire l'union de clarté-vacuité. Quand vient une expérience de clarté, d'accord, tout de suite vacuité, coémergence-vacuité. C'est-à-dire vide de réalité propre. N'y mettez, attention, voyez-vous en train d'essayer de faire une réalité propre de l'objet visionné, si j'ose dire, et du sujet destinataire de la visite. Parce que vous finirez schizophrène comme Jeanne d'Arc. D'accord ? Marina Adlen n'est pas schizophrène. D'accord ? Elle fait bien la part des choses. J'ai demandé à ma vision de me dire qui de moi te voit. C'est pas une schizophrène, c'est une contemplative analytique. C'est une bouddhiste. Hein ? Mais c'est la règle des contemplations. C'est la règle de la contemplation orthodoxe. D'accord ? Hein ? On voit, d'accord ? L'avènement tantrique, c'est l'avènement de Kirin, la génération de la divinité, etc. Ça peut être une petite bribe. Hein. Hein, souvent, c'est une petite bribe aussi. Hein, etc. La totalité, à la limite, à quoi ça sert, hein, peut-être. Il faut voir. Ça a son utilité, je pense, quand même. Mais la totalité d'un mandala de la divinité, c'est énorme. Mais on peut le faire par un secteur, séquence. Mais voilà, l'idée, c'est l'union de clarté-vacuité, c'est ça le yidam racine. Donc tout ça, ça fait du bien quand même de le revoir, parce que j'en ai déjà parlé hein, dans l'enseignement de Sangamena.
Avec l'image, je dois toujours me référer au mot pour, à chaque fois, au mot pour sentir un petit peu, pour évoquer. C'est-à-dire j'ai du mal à prendre l'image et il y a l'évocation.
Oui, parce que...
J'ai l'habitude avec le
voilà.
Sophisme.
Il faut après savoir se nourrir cette appréhension intellectuelle du sens. Et ensuite, ce sens devient signifiance et non pas signifié. C'est très différent. Hein? D'accord ? Une signifiance qui est justement de l'évocation, un feeling. C'est ce que je crois. Je crois, c'est un peu ce qu'évoque, illustre l'expérience de Proust, la Madeleine. Il y a une évocation. D'accord ? Il s'en fout que ce soit une Madeleine ou etc. Et c'est ce feeling de félicité là. D'accord ? L'évocation. On rentre dans un plan d'évocation intuitive. Ouais, ça. C'est le top de la sophistication sensorielle de ce plan imaginal. Il y a une expérience sensorielle, ce qui donne un sentiment de félicité. D'accord ? Qui donne une expérience de félicité, de ravissement presque. Hein, d'accord ? Donc, qu'il faut se méfier aussi. Et donc, quand on a une expérience de félicité, félicité vacuité. Vous vous souvenez de la quatrième garantie du Bouddha. Méditer, c'est faire expérience. On s'en réfère à l'expérience et non pas à la croyance. Et quatrième garantie, quand il y a expérience, on se réfère à la vacuité de cette expérience. Non pas qu'elle n'existe pas. Ne pas lui prêter une réalité propre, une altérité qui vient à Bibi, moi. D'accord ? Mais qu'elle est coémergente, elle prend source en la qualité inhérente de l'esprit. C'est une expression, nirmanakaya, d'une qualité de l'esprit. C'est l'épiphanie, voilà, de la nature de l'esprit.
Se référer à l'expérience.
ne pas se référer à l'expérience et non pas à la croyance, donc bien faire le discernement. Et pour faire l'expérience, il faut méditer, s'appuyer sur la concentration, et l'expérience viendra au fur et à mesure. Et puis bien faire ce qu'on nous demande de faire. D'accord ? Les consignes, machin, les nuances intellectuelles des choses, attention, machin, voilà. Reprendre les engagements du refuge pour se protéger. Hein, le guidam racine, le lama racine, et ainsi de suite. D'accord ? Et ensuite, la quatrième garantie, vous vous souvenez, hein, c'est à toute expérience, sans référer à la sagesse de la vue de la vacuité. On exécute cette intelligence, que cette expérience est vide de réalité propre, d'une altérité qui vient à un destinataire, mais que c'est une coémergence épiphanique de l'esprit et sa félicité. Ça va ? Pour rejoindre l'idée, théophanie, machin, etc. Épiphanique, c'est nirmana. Et nirmana, dans les vœux des trois racines, on l'associe au daka, dakini, protecteur, etc., etc. Qui est la vue pure au daka, dakini, etc., etc. Est un lien au nirmanakaya de mon propre corps. Alors, c'est pas le corps physique, mais la capacité qu'a l'esprit de se représenter corporellement. On verra plus tard le nirmanakaya. Et quand on réalise le daki, là, au niveau daki, maintenant, soi-même, comme divinité, on réalise le nirmanakaya. D'accord ? C'est-à-dire l'immuabilité qui permet d'être transporté d'une vie à une mort, etc., sous forme d'un nirmanakaya. Je résume, c'est peut-être mal dit. Nirmanakaya, c'est notre corps résurrectionnel, si vous voulez, pour faire un lien bouddhique, biblique, évangélique même. Donc c'est assez pointu, il faut vous en souvenir, et puis si vous vous en souvenez pas, ça servira à une autre vie, ne vous inquiétez pas. C'est intégré, c'est rentré dans la boîte. Après, qu'on ne comprenne pas, etc., bien sûr.
Il y a comprendre sur le coup, et après garder.
Alors, comprendre intellectuellement sur le coup, c'est énorme. Être passionné de pouvoir comprendre et expérimenter, c'est encore mieux. Là, c'est vraiment être aspirant. J'aspire à cette réalisation. Et je vous assure, il y a possibilité. D'accord ? Il faut de l'effort, de la concentration. Pas jouer la facilité. Oui, mais moi je fais comme ça, ça marche, je récite, je crois, et ça, il y a l'énergie qui vient. Faites ce que vous voulez, mais après, dites-moi vos expériences par contre. Moi je parle d'expérience, en ayant fait cela, comme je dis aujourd'hui, comme je viens de le dire, etc. Je l'ai fait comme on m'a demandé de le faire aussi. Après, chacun est libre de dire oui, mais moi je fais plus, comme ça, c'est plus facile. Il n'y a pas de problème. Si vous trouvez plus facile, je serais content. Mais qu'on me parle des expériences que vous avez eues. C'est ça qui est intéressant.
Moi, ce qui est intéressant, c'est que les espaces où je comprends, c'est déjà défriché. Et puis,
tout à fait,
après,
oui.
Après, il va s'en rajouter.
Voilà. Je pense que tu as suffisamment de sobriété, justement, pour avoir patience, etc.
Oui, ça, c'est... Je peux rajouter que ça, j'ai l'impression que j'ai ça depuis mon enfance. Et comme s'il y a quelqu'un en moi qui sait qu'il va y avoir le fruit. Donc j'ai cette passion.
Je reprends souvent une anecdote de Saint Chrysostome dans son commentaire de la Philokalie. Et un moine qui médite donc une icône de Jésus-Christ. Je le répète souvent, je l'ai déjà dit. Mais pour moi, c'est important, quand on aborde le tantra, de parler de ça aussi, quitte à me répéter. Et donc un moine médite le Christ dans une posture particulière, avec un sceptre, un livre, voilà, etc. Il va voir Saint Chrysostome et il a une expérience visionnaire, mais il dit « J'ai vu le Christ ». Et puis, bah, tout un truc comme ça, enfin, je passe, et puis, c'est pas développé, je crois. Et Saint Chrysostome dit, retourne-y, c'était pas le Christ. D'accord ? Parce que, c'est là que c'est intéressant. C'était pas le Christ tant qu'il prenait comme une expérience d'une altérité qui vient à lui. D'accord ? C'est juste de l'obsession, un peu comme il y a de l'obsession rétinienne, ben, il y a de l'obsession imaginale. D'accord ? Tu fixes l'icône comme ça, tu fermes les yeux, etc. Il y a un moment où ça peut apparaître, l'image. D'accord ? Et puis après, tu peux pénétrer vraiment. Mais là, tu rentres en zone dangereuse. Schizoïde. D'accord ? Bon, ça ne sera pas votre cas. Hein. Mais il y a des personnes qui ont vraiment cette perversion. Ce n'est pas que c'est des pervertis, les gens. Hein. D'accord ? Mais cet aspect de soif qui veut voir pour croire ou croire pour voir. Vous voyez ? Pas comme, ça, pas comme Thomas, hein, bien sûr, autrement. Hein, on veut cristalliser, figer la vision. Hein, et là, on fige de la clarté. Et c'est là qu'on passe de l'autre côté d'un miroir. D'accord ? Et donc, s'habituer à la vue de la vacuité. Et c'est pour ça que la vue de la vacuité, c'est notre premier, c'est l'âme racine. L'union de vacuité et compassion. Seule la vacuité est dotée de compassion. Elle nous sauve. D'accord ?
Quand est-ce qu'on y est en vacuité ?
Ah bah, tu le sauras. On n'est pas en vacuité. Hein. Tu réalises la vacuité d'une illusion. Tu te vois en flagrant délit de saisir. Ouais. En flagrant délit de... Ah, mais... Voilà, j'ai vu ma saisie d'une réalité sur cette vision. D'accord ? Après, ça peut effondrer la contemplation, etc. Parce que tu peux passer par un mode intellectuel, éventuellement. Mais après, tu reviens, et puis voilà. Mmh. Et quand tu réalises une vacuité, tu la sais. Hein. Mmh. C'est un numen, vraiment. C'est un numen, c'est probant, quoi, manifeste. Hein. Pour ça, j'utilise sciemment ce mot-là, hein, parce qu'il est beau, en plus. C'est Jung qui disait « Le Christ est le numen, l'obscurité numineuse. » L'obscurité, dans le sens de la grande vacuité noire, le mystère numineux, pour jouer sur le lumineux. Vous voyez la nuance ? Il y a quelque chose de lumineux, hein, probant, mais de voir l'invisibilité. Vous voyez ? Quand on réalise une vacuité, ou deux, ou trois... Hein, ce qui était invisible est su pour être invisible. Elle devient pas visible. Elle est su pour être invisible et c'est lumineux, c'est évident. Moi, je pourrais prendre le mot évidence.
Lumineux ou lumineux ?
Nu. Lumineux. Ça vient de numen. Le mot numismate aussi pour les pièces. Vous voyez ? Tac. Celle, quelque chose de. Voilà, c'est le sceau du roi, cette pièce. Je pense que ça doit être la même racine. Lumineux, c'est le terme que j'utiliserais pour traduire Sidi. Hein. Et il n'y a pas de doute là. Et c'est ça l'intérêt du mystère. Garder le mystère, effectivement. Il ne faut pas obligatoirement, justement, le trahir avec de l'image si on prend l'image pour une réalité. Hein, une puissance représentative, ou si on prend le mantra pour une puissance évocatrice significative, d'accord ? Non, vous pourrez répéter des heures et des heures, ou Om Mani Padme Hum, il n'y a pas de puissance significative.
Le calme mental, déjà, ça fait quand même le calme mental.
Quoi ?
Le répéter des mantras.
Ça dépend ce que tu fais en répétant. Tu peux très bien répéter distrait. Hein. Après, il y a calme mental et calme mental. Tu peux être absorbé, hein, complètement absorbé, et ton calme mental ne fait pas amener vipassana. Hein. T'es abruti, quoi. Hein. Oui.
Est-ce qu'on pourrait ramener ça aussi à la traversée du désert ? De le plonger...
C'est une léthargie, ouais, c'est pas un calme mental. De toute façon, le calme mental, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. On est en vacances discursives. D'accord ?
Moi, je vois ça comme aller toucher des choses qui aussi, sont aussi la balayette qui enlève la poussière.
Le calme mental, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme espérer que l'océan soit pacifique, sans vagues.
J'ai mal au facile.
On va arrêter là. On va faire la dédicace.